Vous écoutez le Maki, le podcast de l'Amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, l'AMECAS, affiliée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dans les séries d'épisodes qui vont suivre, que nous avons intitulées Les damnés de la Terre, nous irons à la rencontre d'étudiants africains ou afro-descendants venus en France pour les études. À travers des témoignages, il sera question de leur perception individuelle des systèmes éducatifs, économiques, politiques, sociaux et culturels du pays d'accueil et de leur pays d'origine, à savoir le Brésil, les États-Unis d'Amérique, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo.
Donc, je m'appelle Daniel Nikolaevski Maria. Nikolaevski, nom qui vient d'une famille juive qui a fui l'Ukraine avant la Première Guerre mondiale au Brésil. Et Maria, nom de mon père, nom qui a été donné par des familles esclavagistes aux esclaves qui ont été libérés de leur ferme. Voilà. Donc, grand mélange brésilien. Oui, en effet, le Brésil, c'est un pays très très large, avec des énormes disparités, et c'est ce qui crée la joie, le bonheur et la souffrance en même temps du pays. Moi, j'ai grandi à Rio. Je suis né à Rio de Janeiro, j'ai grandi à Rio, je suis venu en France quand j'avais 23 ans. Donc jusqu'à mes 23 ans, ça allait, j'ai eu des moments... Je faisais face à la violence quand j'étais petit, et puis il y a eu un grand basculement dans le pays. Quand Lula et Dilma ont été dans le pouvoir, le pays a remonté à la surface. Ils étaient vraiment le pays était vraiment dans une bonne période. Et puis on a eu Bolsonaro et après ça a rechuté. Donc moi je suis venu en France juste au moment où ça commençait à basculer. Quand j'ai senti qu'il allait y avoir des coups d'État vers Dilma, il y avait des énormes crises immobilières en fait dans le pays avec les Jeux Olympiques, avec la Coupe du Monde. Et moi, je voyais tout ça venir, arriver. J'avais la possibilité de venir ici pour faire des études supérieures, donc je suis venu. Je crois que l'idée, elle était là depuis très longtemps. Mes parents, ils ont vu que j'avais une facilité pour apprendre les langues. Et j'avais de la curiosité aussi. J'ai toujours beaucoup aimé lire, écrire, dessiner, peindre, voilà. Et j'avais appris l'anglais quand j'étais petit. J'avais une facilité avec le français parce que dans mon lycée, c'était pas un lycée français, mais il y avait le choix de pouvoir apprendre le français. Moi, j'ai fait ce choix et du coup, j'étais sensibilisé par la langue. Quand j'avais 18 ans, j'avais fait un voyage et j'ai atterri ici en France pendant 3 jours. J'ai adoré le pays, donc ça m'a marqué. Et puis quand j'avais eu la chance financièrement et aussi dans ma vie personnelle, je me suis dit pourquoi pas faire une aventure d'un an, et ça va faire bientôt 10 ans que je suis là. Je pense qu'on a la chance de vivre dans une génération où tout ce qui est sucré dans un autre pays, dans un autre continent, peut immédiatement arriver dans un autre pays, dans une autre culture. On vit avec Internet et ça c'est une des meilleures inventions de notre siècle, je pense. Donc je garde le lien, bien sûr que c'est pas la même chose que d'être dans nos pays, parce que c'est pas la vie quotidienne, j'essaie aussi de ne pas me fermer dans une bulle chez moi, en Brésil, donc pas que regarder des choses qui viennent de là-bas et qui sont produites là-bas, mais ça me fait beaucoup plaisir de pouvoir être en contact avec des chanteurs, avec des artistes, avec des musiciens, avec des comédiens à travers Internet, donc ça me réconforte. On m'avait dit que c'était un pays quand même assez raciste. Et moi, j'avais pas cette idée-là, parce que bon, je suis resté 3 jours, la première fois que je suis venu ici, donc je comprenais pas la langue, et je connaissais pas le système. Mais on m'avait dit, c'était un bon ami, il m'a dit, fais gaffe, il y a du racisme dans le pays, mais bon, après, au Brésil aussi, c'est un pays très raciste. On peut tuer des noirs dans les rues, dans les supermarchés, juste à cause de la couleur de leur peau. Donc, j'avais pas d'idée générale, j'avais juste une envie de vivre dans une ville un peu plus safe et avec une beauté de la ville. La beauté architecturale de Paris m'a beaucoup marqué, et de la France en général. Et ça me réjouit et ça me donne encore plus envie de rester ici, en fait. En fait, le projet au départ, c'était d'aller à Toulouse pour apprendre le français. Donc, c'était une école de langue étrangère pour des étudiants internationaux. Je me suis inscrit pendant un an, mais j'étais tellement à fond que j'ai fini en 7 mois. Voilà, donc au bout de 7 mois, ils m'ont dit, bah Daniel, il faut que tu quittes l'école, il faut que tu découvres la France, le pays, il faut que tu apprennes le français dans la rue et avec des personnes. Parce qu'ici à l'école, on peut plus rien t'apprendre. Donc un soir, j'ai vu une pub pour une école qui préparait des concours d'études supérieures pour des écoles d'art. Ça m'a plu parce que j'ai passé toute cette année à laquelle j'apprenais le français. J'ai fait beaucoup de dessins. Je me suis mis à la peinture. J'ai fait beaucoup d'aquarelles. J'ai dansé aussi beaucoup. Tout ce que je faisais au Brésil, mais comme j'avais un boulot alimentaire au Brésil qui me prenait énormément de temps, je travaillais avec de la pub. Je faisais tout ce qui était 3D pour des ouvertures de pubs, genre brosse à dents,
Je vois.
sandales, des choses pas du tout intéressantes. Je faisais des nuits blanches, je travaillais les week-ends, tout ça. J'avais pas vraiment réussi à construire un univers personnel, artistiquement. Du coup, pendant cette année d'apprentissage de français, ça a été aussi une année de redécouverte de mes capacités créatives. Et donc, j'ai passé le concours pour les Beaux-Arts de Paris. Je suis venu à Paris pour les Beaux-Arts. Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué ici déjà, de rencontrer un pays dans lequel il y a une forte communauté arabe. Ça m'a ouvert l'esprit encore plus à d'autres ethnies et d'autres pays. Je pensais que j'allais arriver dans un pays où il n'y avait qu'une une ethnie seule, où j'allais retrouver, je sais pas, une idée de français, c'est des blancs, c'est des Européens, c'est des voilà les stigmas du français. Et j'arrive dans un pays qui est marqué par une multiplicité de possibilités, en fait. J'arrive à Toulouse, donc il y a déjà toute la communauté espagnole qui migre en France. Il y a les communautés arabes aussi. Il y a tout ce mixage que ça peut arriver, des Argentins. Donc je découvre qu'il y a quand même pas mal de communautés brésiliennes par-ci par-là, à Lyon, à Paris, à Toulouse. Donc je remarque que déjà je n'étais pas le seul à avoir cette idée de migrer, d'exote, et aussi de découvrir que la France est un tout. C'est pas juste une petite chose, mais c'est vraiment un projet de maison-monde, aussi. Bah, si on compare de façon superficielle, sans prendre en compte l'histoire de chaque pays, sans prendre en compte l'histoire du peuple, bah, ça ne sert à rien, je pense. Ça sert à rien de comparer deux nationalités, deux pays, deux continents, sans prendre en compte toute leur histoire, parce que, par exemple, je connais pas l'histoire du Sénégal, mais très bien. Mais si je compare l'histoire du Brésil, qui a, entre guillemets, 550 ans. Et la France, par exemple, qui doit avoir 2000 ans, 1500 ans, c'est pas... déjà, c'est historiquement, c'est pas comparable. Donc, on pourrait les mettre côte à côte pour essayer de construire. On pourrait essayer de construire avec les erreurs, par exemple. Donc là, on est dans un projet de construction d'un pays avec tout ce qu'on a appris dans un pays, mais visiblement, c'est pas ce qui se fait parce qu'on n'apprend pas avec les erreurs. On fait que continuer à construire et faire des erreurs dans un autre pays. Donc je pense qu'on compare, mais pas de la bonne façon. Mais je sais pas si j'ai la réponse à cette question non plus. Constamment, je suis en train de penser le Brésil ici, la France là-bas. Si je vais là-bas, je pense là-bas ça fonctionne comme ça, et ici je me dis aussi là-bas ça fonctionne comme ça. Je pense que c'est un bon outil pour essayer de construire un nouveau monde, de savoir que bah déjà il y a la différence hémisphère nord et sud, les Amériques et l'Europe, et de penser que les deux ils sont pas bipolaires, en fait c'est pas noir et blanc, c'est vraiment un doit apprendre avec l'autre. Donc s'il y a des choses qui fonctionnent ici mais qui ne fonctionnent pas là-bas, il faut faire le part de savoir pourquoi ça fonctionne pas. C'est la culture, c'est la langue, c'est les problèmes de communication, c'est plus large que ça, c'est vraiment la société qui a été construite comme ça. Voilà. Il y a des choses à... Moi, j'aime bien me mettre en retrait pour regarder les choses et penser pourquoi ça fonctionne de telle ou telle façon. Donc, je pense que cette comparaison, elle est bonne, et je pense que c'est comme ça que la diplomatie fonctionne aussi. Le rôle des diplomates dans le monde, c'est ça aussi, de savoir les modes de fonctionnement de plusieurs pays et de pouvoir créer des ponts. Et moi, comme je suis artiste, avec mon travail et mon travail aussi, bah, je fais beaucoup voyager mon travail, je voyage avec mon travail. J'essaye aussi de penser que mon travail et moi-même, je pourrais être ce pont de connexion, de construction de langage aussi. L'école que j'avais fait après le lycée, au lycée, il y en avait pas mal quand même. lycée collège, parce que c'est une école publique qui a un projet de tirage au sort. En fait, tout élève, et c'est pas par adresse comme en France, c'est pas par ni par en position au revenu des parents. En fait, c'est le tirage au sort. C'est un système assez particulier. Il y a que mon lycée en fait qui fait ça. Du coup, ça démocratise beaucoup les places d'accessibilité aux étudiants. Donc au lycée, il y en avait pas mal. Après, j'étais parti pour faire une école de cinéma 3D, qui était une école privée. Et là, il y en avait d'autres, en fait. Donc, au Brésil, le choix, vu que c'est un pays où il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de famine, le rêve, et ça, mais ça, c'est vraiment quelque chose de la société. Le rêve des parents, c'est de pouvoir donner les études pour les enfants, pour qu'ils puissent construire un meilleur futur pour toute la famille. Donc c'est pas juste la famille proche, mais vraiment les cousins, les tantes. Donc c'est un peu l'érigé de la famille qui peut arriver à faire les études. Et ils vont souvent aller vers dans les écoles de droit, de médecine, de physique, de chimie. Donc les jobs un peu plus sûrs. Donc tout ce qui est artistique ne vient pas au premier abord dans la tête des parents. Et même aujourd'hui, avec Bolsonaro, bon, il a éliminé le ministère de la Culture, qui est devenu, ouais, non, mais il n'y a plus de ministère de la Culture. Donc, ça sent qu'il, même au niveau du gouvernement, c'est pas la priorité. Donc, quand t'as un enfant qui va te dire, oui, j'ai envie de faire une école d'art ou j'ai envie d'étudier le cinéma, ben non, il faut qu'on paye le loyer, il faut qu'on paye les factures, donc c'est pas la priorité pour, et ça crée cette disparité de quantité d'élèves déjà qui s'intéressent ou qui pensent qu'ils peuvent construire en futur en tant qu'artiste, en tant que créateur. Pourquoi il n'y a pas d'étudiants noirs? Bon, déjà c'est un milieu hyper élitiste. Bah déjà pour se permettre de faire de l'art, il faut soit être vraiment très fou ou je trouve que je suis un peu fou. Mais oh, sinon il faut venir vraiment soit d'une famille d'artistes, soit d'une famille très aisée. Et c'est le cas au Beaux-Arts, en fait. Il y a beaucoup de fils d'artistes, fils galeristes, fils d'eux, qui viennent au Beaux-Arts. C'est une école qui se trouve pile poil au centre de Paris, qui dit Paris, France, donc capitale de la culture et projet de culture, de disséminer la culture française mondialement. Donc il y a très peu d'accessibilité. C'est vraiment un milieu un peu fermé. Heureusement, dernièrement, ils ont fait une classe prépa interne dans les Beaux-Arts pour démocratiser un peu plus l'école. Donc c'est un projet récent qui date de 3 ans, d'aller chercher des nouveaux étudiants, au moins à travers une prépa interne, dans les banlieues parisiennes. Donc maintenant, ils commencent à avoir plus de noirs, parce qu'ils se sentent plus ouverts au Grand Paris, où se trouve une grande majorité d'habitants noirs. Mais je peux dire aussi que j'ai été soit le seul, soit il y avait un autre dans les ateliers pendant mes 6 ans au Beaux-Arts. Dans l'atelier de photo, quand je suis entré au Beaux-Arts, il devait en avoir deux pendant 2 ans. Après, dans l'atelier de danse chorégraphie, pendant une année, il y en avait deux, et après, j'étais le seul pendant 3 ans. Mais ça a été comme ça pendant toutes mes études, que ce soit au Brésil ou ici. Je ne sais pas si c'est le choix de faire de l'art, faire des choses très dans niche, juste parce que l'art n'est pas accessible, pas démocratisé à tous, fait qu'on n'est pas beaucoup de noirs dans ces lieux-là. Avec mes collègues, quand je suis rentré à l'école, ça jouait un rôle particulier parce que je ne comprenais pas super bien tout ce qu'ils voulaient dire, tous les sujets, c'était très bizarre, c'était un milieu très fermé, blanc, français, fermé. J'essayais de m'intégrer, mais ça ne marchait pas, déjà par des problèmes de langage qui aujourd'hui sont complètement dépassés, ouais, sont complètement dépassés. Mais aussi par un manque d'ouverture. J'étais dans un atelier photo où les gens se disaient très ouverts, mais en fait, ils étaient très fermés dans leur tête. Et après, j'ai fait la rencontre avec Emmanuelle Huynh, qui est une chef et prof de danse et performance aux Beaux-Arts, qui est très sensible à la question de la migration, parce qu'elle vient d'une famille d'un père immigré, Viette. Et donc, cette rencontre m'a beaucoup bouleversé et ça m'a validé ma position là, d'avoir quelqu'un qui est fille d'immigré et qui voit la place de l'immigré dans la société. Et ça m'a supporté, et ça m'a permis de continuer ça m'a aidé à travailler dans la réussite de mes études. Donc je sais pas si le fait d'être brésilien m'a aidé plus que les autres, mais c'est vrai que le fait de venir dans notre pays fait que je suis complètement concentré dans mes études et dans mon but, Et je suis moi en train de m'évader par-ci par-là ou par des histoires de familiales que j'ai aussi essayé de laisser derrière moi pour pouvoir construire ma propre personnalité et ma propre vie. J'ai fait partie du BDE des Beaux-Arts, j'ai organisé des fêtes, non, j'ai participé de la vie étudiante. Mais je ne faisais pas les 3 mois dans le sud avec ma famille. Je faisais un voyage par an pour aller au Brésil pour visiter mes parents. Et après, quand j'étais en France, j'étais là pour me pencher dans mes études, lire, écrire, créer, penser les projets. Et moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup être. Je pense que c'est de ma personnalité aussi. J'aime beaucoup être quelqu'un qui est dans mon coin, dans mon studio, avec ma toile, avec mes projets, pour me concentrer et me laisser un peu moins évader par des sujets autres. Quand je vais au Brésil, on me pose la question, par exemple, je vais essayer de bien placer mes mots, parce que c'est délicat, par rapport à tout ce qui est attentat terroriste. Voilà. Donc, je pense que c'est quelque chose qui me marque, parce que c'est pas quelque chose qui vient, et pas quelque chose qui existe dans mon pays. On a la guerre civile, mais on n'a pas des guerres religieuses ou conflictuelles aussi intenses. On va pas, par exemple, pouvoir un lieu de fête exploser comme ça a été avec le Bataclan ici. Donc non, la France elle ne va pas bien. Il y a plein de conflits, il y a de la misère, il y a le problème du chômage, il y a le problème des revenus ici. Je sais qu'il y a plein de problèmes sociaux dans ce pays. Mais on n'a pas des personnes qui gagnent 20 € par mois pour nourrir une famille de 5, par exemple. Ici, il y a quand même tout un système socialiste, un peu communiste, communiste capitaliste, qui fait que même si t'es pauvre, t'as quand même un peu d'aide du gouvernement, alors que dans un pays du tiers-monde comme le Brésil, si t'es pauvre, t'es vraiment délivré à toi-même et à ta famille. Non, la méritocratie, que ce soit en France ou au Brésil, c'est un sans conte de fées. Ça n'existe pas, la méritocratie. Il y a vraiment des gens qui peuvent réussir, des gens qui ne peuvent pas réussir, et par un système qui est raciste, par un système qui veut placer des personnes dans tel endroit pour qu'elles puissent représenter la société, des grandes parties de la société, et le racisme institutionnel, il existe. Donc même moi, si j'étais à fond dans mes études, j'ai gagné des prix, j'ai fait des expos, voilà, j'ai un travail qui plaît. Moi, je sais qu'il y a des endroits où je ne pourrais pas accéder parce que je suis noir. Ça, c'est factuel. Une fondation, je vais pas mettre des noms, mais quand t'as une fondation ou un prix qui présélectionne tous les ans des artistes de toutes les ethnies possibles, mais le lauréat est toujours un homme blanc cis, tu comprends que même s'il y a, entre guillemets, pour les images, une ouverture d'esprit, il y a quand même des acteurs derrière qui disent non, on va quand même garder notre système parce qu'il marche et on veut faire de l'argent sur ces personnes-là. J'ai eu la chance d'avoir une très bonne assistante sociale au CROUS des Beaux-Arts de Paris, Madame Fétu, je te remercie beaucoup, qui m'a tous les ans elle m'a donné une aide ponctuelle, mais j'ai passé beaucoup de temps à faire un dossier de demande d'aide ponctuelle, très minime en fait, mais ça me permettait déjà d'avoir une petite bourse parce que vu que mes parents n'ont pas la domiciliation fiscale en France, même s'ils ont de très faibles revenus, je ne suis pas éligible à une bourse. Donc je ne peux pas être boursier. Donc j'ai toujours travaillé, j'ai toujours eu des jobs alimentaires pendant tout l'été. Donc je passais beaucoup mes étés aussi à travailler. Pendant toute la durée des études, j'ai travaillé et ça a un peu construit la force de mon travail aussi. Donc d'être toujours en contact avec des clients, dans une démarche commerciale, de pouvoir voilà, juste par la force du travail, je devais être en contact et être dans la vie. Et ça a construit aussi un peu mon art aussi, de pouvoir. Qu'aujourd'hui mon art, il se passe beaucoup par la médiation culturelle, et ça vient des expériences de travail que j'ai eues en tant que dans mon job alimentaire aux Beaux-Arts. Je pouvais pas passer des nuits à étudier ou à réviser. Ça a un vrai impact dans mes études. Mais après, les Beaux-Arts, c'est une école qui est très libre aussi. Donc on peut construire nous-mêmes notre emploi du temps. Je ne pouvais pas faire tous les cours, mais c'était pas non plus tous les cours qui m'intéressaient. Donc j'avais cet avantage-là. Et quand j'étais en cinquième année, les Beaux-Arts m'ont accordé un appartement gratuitement pour vivre. J'ai déposé un dossier de demande de logement et pendant toute ma dernière année, c'était l'année de création de mon diplôme de fin d'année et c'était l'année pour clôturer mon cursus, ça m'a été accordé. Donc les Beaux-Arts m'ont permis aussi de me concentrer entièrement dans mon projet d'études. J'ai déjà pleuré dans une préfecture de police parce qu'on m'a gueulé. C'était non mais c'est horrible. L'administration française c'est un truc traumatisant quoi. Ça c'est un truc à éradiquer. C'est horrible. Beaucoup de papiers, beaucoup de larmes, beaucoup de stress, beaucoup d'argent pour pouvoir payer son visa, pour rester ici tous les ans. Non mais ça c'est un enfer que tous les étudiants étrangers passent. Je souhaite ça à personne. Bah maintenant j'ai plus besoin de prouver que je vais à l'école pour avoir un visa, même si je dois prouver que je travaille pour pouvoir continuer à vivre ici. Parce que là j'ai déposé une demande de naturalisation à suite à mes études, mais c'est très long donc j'attends. Mais pendant 6 ans je devais prouver que j'allais en cours, je devais avoir une lettre d'attestation de mon inscription à l'école des Beaux-Arts pour avoir un visa. Et c'était très drôle parce qu'à l'école, aux Beaux-Arts, on n'est pas noté. On a juste une attestation de réussite au cours. Donc c'était très bizarre pour l'administration de comprendre que dans une école française, on peut ne pas être noté. Donc c'était un double jeu très bizarre qui faisait. Donc j'avais eu la chance quand même d'étudier dans une école qui n'est pas très stricte et qui nous permet aussi d'être délivrés à nous-mêmes pour qu'on puisse se construire. Je crois qu'il y a plus de révolte dans l'art brésilien. Elle est beaucoup plus viscérale. Ici, on est beaucoup dans la forme. L'art conceptuel est né ici, donc du coup, ça veut beaucoup dire sur l'état de la pensée française. Moi, j'aime beaucoup mélanger les deux. Donc de prendre tout ce que j'ai appris avec les études supérieures en France et de mélanger avec cette envie de révolte et de viscéralité de l'art des Amériques et du Brésil. Donc faire un grand mélange des deux pour créer l'art du 21e siècle. J'aime bien vivre en France. J'aime bien la France. tous les ans, je vais au Brésil. Donc là, je vais à nouveau en octobre, mais cette fois, invité par une compagnie de danse qui mène un projet entre les Beaux-Arts, une école supérieure de São Paulo. Et j'aime beaucoup avoir ce rôle d'artiste pont, artiste un peu diplomate, artiste créateur du monde. Et le fait de vivre à l'étranger me permet aussi de représenter dans une partie mon pays. Donc, je pense qu'il y aurait du poids à avoir et à travailler dans mon pays d'origine, mais comme j'ai construit un début de carrière ici, et là ça fonctionne plutôt bien, je pense que je vais garder cette idée de voyager, ou faire voyager mon travail, et avec mon travail toujours parler de mon pays, parler de ma ville, parler de la beauté de mon pays et de tout ce qui a changé aussi pour qu'on puisse construire un meilleur futur. L'exode, j'ai découvert ça avec Myriam Menindo, qui est une artiste gabonaise. L'exode, c'est lui qui voyage et qui se nourrit de ses voyages, des personnes qu'il rencontre, des situations, des expériences, et qui est dans un constant voyage éternel.
Merci d'avoir écouté le Maki. Le podcast de l'Amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, l'AMECAS. Ces entretiens sont tirés des épreuves de tournage de Sékou, un collage documentaire écrit et monté par Liko Imale, avec Awan Jai et Ruth Giadika à la caméra, Adia Diaby et Patricia Sylvia au son. Pour continuer la conversation, retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux et via le hashtag LeMaki. Les Damnés de la Terre, une production de l'AMECAS et de Togan Audio, avec la participation de Paris Mathieu Sara, Eloi Yoni, Dandara Arujao da Silva, Mohamed Djabi, Saifuddin Ahamadi, Ambre Daibi Saram, Prodige Miakala, Julie Mbatop, Farel Bekono, Daniel Nikolaevski. Nos remerciements aux associations africaines d'Île-de-France, Paris Dauphine Afrique de l'Université Paris 9 Dauphine, Sorb Outre-mer de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Afro-ESTP ESMA de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ASPA de Sciences Po Paris, CS Afrique de Centrale Supélec, EFAB de l'EDEC, ESSEC Africa, HEC Afrique Antilles, le Club Afrique EM Lyon Alumni, MARIFA de l'Université Paris 2 Panthéon Assas, X Afrique de Polytechnique, et enfin, nos remerciements au Labo 6 de la Maison des Initiatives Étudiantes, la MIE de Paris.